Salut, bienvenue, quatrième épisode de l'AI Engineering Podcast. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Pimpot. Comment ça va, Benoît et Julien?
Ça va plutôt bien, merci pour l'invite. Très content de pouvoir discuter avec vous de tous ces sujets qui nous prennent beaucoup de jus de cerveau en ce moment, je pense.
Merci de nous avoir rejoints. À chaque fois qu'on discute, Benoît, tu as des bonnes idées, toujours des bonnes idées. Donc, je pense que ça va être super intéressant de discuter avec toi.
Ah, c'est trop cool. On a eu des bons retours sur les épisodes. On a reçu des gens qui disent exactement la même chose que ce que t'as dit, Benoît. Ah, j'étais perdu dans tous les sujets. Ça fait du bien d'entendre des gens qui en parlent et tout. Je pense que c'est assez cool. C'est rafraîchissant, je pense. Et la news aussi, je sais, on l'a dit la dernière fois, mais les épisodes, ils sont aussi sur Spotify et Apple Music, c'est ça, Julien?
Ouais, Apple Podcast.
Apple Podcast. Trop
Donc,
bien.
n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je sais que j'écoute tout le temps sur Spotify. Donc, rien pour moi, j'étais content qu'on ait ça sur Spotify, en tout cas.
Parfait. Alors, aujourd'hui, on a des news bien chargées. Je pense que le premier truc dont on voulait parler, c'est ce qui est sorti, je crois que ça a été hier soir. Donc, Jack, qui est le fondateur de Twitter, qui est parti de Twitter il y a un certain temps, qui a fondé Blocks, qui est globalement une entreprise qui fait du paiement et beaucoup de choses autour de la monnaie, quoi, a annoncé hier qu'ils allaient licencier 4 000 personnes. Et ce qu'il dit, qui est assez fou, c'est qu'il dit on est profitable, même avec 10 000 personnes, quoi, et avec ces 4 000 personnes supplémentaires. Mais et il dit on ne prend pas cette décision parce qu'on est entre bol. Bon, après, bon, peut-être ça peut être du langage politique de dire ça, mais bon, il dit ça en tout cas. Ils sont profitables et ainsi de suite. Mais ils font ça parce que, bah, en ce moment, tout est assez incertain. Je pense que, on produit plus vite avec moins de personnes, etc. Et donc, ils préfèrent s'y mettre maintenant à réduire leurs effectifs, quoi. Ça, donc, moi, j'ai vu ça. Et après, je suis dans des Slack d'autres startups et d'entrepreneurs où beaucoup de personnes disaient, bah, ouais, là, on voit, il y a plein de petites startups maintenant qui commencent aussi à licencier et à laisser partir des personnes, quoi.
Ouais, bah c'est après la question c'est est-ce que c'est un signal qui est isolé ou pas quoi. Est-ce qu'il y a
Ouais.
et ça un peu l'action. Après je crois que dans son poste, j'ai lu le poste, il disait que du coup, il allait se rapprocher des niveaux de rentabilité par employé d'autres startups comme Shopify ou des choses comme ça. Donc c'est-à-dire que déjà ils étaient un peu au-dessus, ils étaient un peu en termes de chiffre d'affaires par employé, ils étaient au-dessus des meilleures entreprises. Donc je pense aussi que c'est une manière de juste de revenir sur la baseline, c'est-à-dire qu'il va pas devenir beaucoup plus efficient que les autres, il va
Ouais.
juste je pense de revenir à des niveaux standards. Je pense que c'est ça aussi, comme ça aussi qu'on peut voir la chose, quoi.
Et est-ce que vous pensez qu'il sort aussi de sa zone de confort en mode je vois que ça va shifter, du coup je sors tout de suite de la zone de confort que j'ai maintenant pour m'adapter au marché aussi, et peut-être ça aussi, je ne me rends pas compte. Je sais qu'il a été assez dur chez Twitter à l'époque, des choses comme ça, mais est-ce que
Ouais,
aussi.
c'est clair. C'est bon, bon, voilà. J'avoue, c'est assez dur. Après, il y a beaucoup de gens qui ont salué la manière dont ils le communiquent, quoi. Bon, il donne. Après, c'est les États-Unis. Hein. Tu as 20 semaines plus une week, tu peux récupérer ton ordi, etc. Après, il faut voir quelles sont les équipes aussi qui laissent partir, quoi. Parce que sur les 10 000 personnes, est-ce que les 10 000 personnes, c'était des devs? Combien il y avait de pourcentage de devs? Est-ce que c'est des devs qui
Ouais,
laissent
c'est
partir ou est-ce que c'est d'autres types d'équipes? Ça, on ne le sait pas à ce moment-là. Peut-être qu'on le saura un peu plus tard.
bon.
La deuxième news un peu de la semaine là-dessus, c'était Claude qui a montré un post où il montrait enfin, Claude est capable de faire de la modernisation de COBOL et du coup de traduire du COBOL dans d'autres langages, et instantanément le stock de IBM qui a chuté, quoi. Donc ça, c'est un peu pour le fun et le même, mais
Bon, je pense que ça montre surtout à quel point ils ont un impact de fou, quoi. Enfin, on avait vu l'année dernière, Trump a un impact sur les marchés de malades, et maintenant, il y a Anthropic et OpenAI qui ont un impact sur les marchés de malades. Et ça montre aussi à quel point les gens, s'ils sont il y a beaucoup d'incertitudes, en fait.
ouais.
Quand tu as une news qui fait dévisser un stock comme ça, c'est que ouais, les gens, ils sont pas très, très sereins sur comment tout va se passer dans les prochains mois, quoi.
Après, est-ce que c'est pas un peu de hype? Parce que tu vois, le sujet COBOL, ça n'a jamais été un sujet tech. Enfin, ça a été un sujet tech toujours, mais l'enjeu derrière, c'est du legacy et comment tu migres des gros systèmes bancaires vers des choses peut-être plus modernes. Le problème n'est pas forcément technique, il est plutôt humain et de coordination. Donc là,
Ouais.
moi, je vois comme un truc de hype, un peu comme Meta avec tout ce qui était VR et AR il y a 2-3 ans, et puis maintenant, c'est pas. Tu vois. Mais ouais, en tout cas, c'est flippant de voir qu'ils ont tant d'impact. Hein, ça.
Ouais, bah, c'est sûr qu'après le COBOL, il y a d'autres sujets qui sont. Ok, la traduction du langage, c'est assez simple. Le passer en prod, je pense qu'il y a d'autres sujets, quoi.
ça.
Mais là, ce que tu regardes dans le post LinkedIn, là, la dernière phrase est intéressante. Le marché de la migration du software legacy. Ça, je trouve ça, pour le coup, assez intéressant.
Ouais.
Parce qu'on parle beaucoup bah, justement des interfaces, etc. Comment s'interfacer avec des agents. Et puis, du coup, probablement, il y a un marché qui s'ouvre juste pour faire ça, en fait. Transformer des interfaces legacy dans des interfaces un peu
Voilà.
modernes. Ça,
Même
je trouve ça très intéressant.
en data, je parlais avec des amis qui sont data ingénieurs en consulting et ils ont pas mal de sujets de migration de Databricks vers Snowflake ou de Hadoop vers Snowflake, des choses comme ça. En fait, avec ces outils-là, tu peux vraiment aller beaucoup plus vite dans la migration aussi, quoi. Là où avant, c'était vraiment des sujets ultra longs, un peu chiants, on peut se le dire. Là, j'ai pas fait de migration récemment, mais je pense que ça peut être assez cool de.
C'est pour ça que les taux de churn, ils vont probablement exploser maintenant. C'est-à-dire que tu peux
Ouais.
vraiment passer d'un provider à un autre, mais genre ultra facilement. Et donc du coup, en fait, les gens, ils vont avoir tendance. Enfin, là, je crois que c'est Naval. Je sais pas si c'est une news plus tard, mais ce qu'il disait dans le podcast qu'il a sorti cette semaine, c'est que en gros, dans chaque catégorie, tu vas avoir vraiment une seule app qui va gagner. C'est-à-dire que la meilleure app, elle va gagner. Et je pense cette concentration, elle va être facilitée par le fait que les gens puissent changer d'app aussi ultra facilement. C'est-à-dire que tu vas plus être bloqué dans une app qui est un peu sous-optimale parce qu'elle a tes données. Et vu que tu as les agents qui vont t'aider à bouger tes données à droite, à gauche, en fait, tout va pouvoir se concentrer beaucoup plus facilement vers
Moi,
vraiment la meilleure app du marché.
je suis d'accord.
Et du coup, c'est pour ça, ces sujets de migration, je pense c'est un peu tout lié, quoi, aussi.
Ouais, tous les providers qui vont exposer un MCP en avance de phase vont potentiellement gagner les parts de marché là-dessus aussi, peut-être.
Et c'est marrant parce que il y a aussi, quand tu peux lire le truc d'une manière un petit peu différente, où là on parle de outils ou de migration d'un outil à l'autre, mais après il y a l'autre partie du bad coding qui est bah, chacun redéveloppe son propre outil, quoi. Et c'est juste une autre manière de lire le truc où en fait, est-ce que tu as encore besoin d'outils si tu peux les redévelopper toi-même?
Ouais. C'est le buy versus build, on pourra en parler tout à l'heure, il y avait une news donc, qui mentionne ça. Mais
Ok.
ouais.
On arrive au troisième article pour démarrer, Michael Trudell, CEO et cofondateur de Cursor, qui disait, bah, en fait, pour l'instant, on est en train d'entrer dans la troisième ère du software development avec de l'AI. Le premier, c'était l'autocomplete avec des tabs. Le deuxième, c'était plutôt des synchronous agents, donc c'est-à-dire je chat, je vibe, etc. Et là, on arrive dans le truc où il y a tout qui est en cloud agent, en artifact, qui tourne en asynchrone, avec des équipes d'agents qui tournent en background. Et c'est un peu les trucs dont on parle depuis plusieurs semaines. Mais là, ils ont annoncé un truc Cursor. Et il y a toutes les news autour des computers qui peuvent être runnés par des agents et qui font des tâches et qui ensuite te font des rapports.
C'est un peu le point de Julien, je crois, quand toi tu fais tout sur des VPS et enfin t'as déjà un peu cette isolation qui arrive
Ouais, non, mais après, ça, c'est le sujet de maintenant, quoi. Comment t'orchestres plusieurs agents? Mais je pense, par exemple, pour la QA de tes softs, en fait. Ça, c'est un truc qui peut se faire pas mal automatisé avec des agents avec des profils différents qui vont soit aller chercher des proofs, des erreurs dans ton. Enfin, vraiment essayer de prouver que ton code il marche avec des screenshots, etc. Après, tu as des agents qui peuvent regarder la qualité du code. Enfin, bref, déjà en splittant ton pipeline de développement en plusieurs sous-agents, bah là, ça te montre un peu à quel point orchestrer des agents, c'est ça qui a de la valeur aujourd'hui. Je crois que c'est exactement ce que fait Perplexity non, avec ce qu'ils ont sorti cette semaine. C'est juste orchestrer différents agents sur différentes tâches.
Ouais. Bon, on peut en parler rapidement. Il y a Perplexity Computer. C'est exactement ça. Ça permet de lancer des agents qui sont capables de lancer des computers et ensuite de record les sessions, etc. Il y a Cursor qui a sorti la même chose. Cursor Agent can now control their own computer. Il y a Anthropic qui a racheté une boîte qui permet de faire du computer use aussi. Donc je pense que c'est la tendance en ce moment. C'est faire tourner des agents qui ont plus que juste de la CLI, mais qui ont aussi un écran, qui sont capables de faire des choses, qui permettent d'enregistrer ces sessions-là et ensuite de te les renvoyer. Et toi, en tant qu'humain, bah, du coup, tu vérifies si ça te convient ou si ça te convient pas, quoi.
Je pense que c'est plus. Ouais, en fait, parce qu'en gros, ça, on peut le faire déjà, nous. Enfin, dire dans ton ordi, tu peux le faire avec 2-3 clous de code, du codex. Mais là, je pense qu'il change beaucoup, c'est de pouvoir le mettre comme un service dans un browser où n'importe qui peut le lancer, puis le regarder, et puis lui donner du feedback, quoi. Je pense que c'est ça, essayer tous de faire.
Du coup, c'est quoi? C'est comme une VM, c'est le retour des VM un peu.
En fait, c'est plus que ça, parce que, enfin, en effet, c'est un peu une entourage de même, mais il y a un truc qui est ouf avec ça, c'est, il y a un problème avec les cloud agents, c'est que quand tu fais du front-end, à un moment, bah, si tu veux regarder si ton front-end il te convient, t'es obligé de le lancer et de le regarder, tu vois. Bah, ça, le gros avantage, c'est que il est capable de lancer, et ça, c'est le cas le plus simple, je pense que tu peux imaginer plein d'autres situations, mais du coup, il est capable de lancer vraiment un browser dans son agent cloud et ensuite d'aller cliquer dans la UI tout le scénario que tu lui as dit de reproduction et de te montrer que sur la PR qu'il vient de créer, le truc fait ce que tu avais dit que tu voulais qu'il fasse, tu vois. Et donc demain, c'est-à-dire que tu peux faire des cloud agents où tu fais des bots qui vont, je sais pas, automatiser tes connexions sur LinkedIn, liker sur LinkedIn, et tu peux vérifier ensuite la session qu'il a bien fait ce que tu voulais que ça fasse.
Ouais. Après, tu peux même faire des dry runs d'agents et pour être sûr qu'ils respectent bien le scénario à l'avance. Ouais,
c'est ça. Je pense que là, ces trucs avec le fait que du coup, tu as vraiment un computer entier et que c'est pas juste un bash, quoi, ça permet de faire d'autres choses qu'on n'avait pas encore imaginées. Et ensuite, un peu plus dans le sujet, Benoît, cette semaine, tu as écrit un article. Peut-être un peu l'article, c'est celui-ci. Si tu veux en parler, si tu veux aussi un peu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que
ouais,
tu es assez connu dans l'écosystème français, mais vas-y.
On a peut-être dû commencer par ça.
Ouais, c'est vrai.
Ça marche dans tous les sens, c'est pas grave. Non, mais moi, je suis Benoît, product manager depuis 3 ans, plutôt avec un background data à l'origine. Et c'est vrai que IA et produit, justement, là, c'était un peu l'article poussé hier, c'était vraiment sur... on shift un peu d'écrire du code à écrire des specs. Et toujours un truc qui m'a intéressé dans ces sujets-là, et même dans la data, quand on parlait de sémantique layer, ça résonne un peu avec ces sujets-là, c'est en fait, quelle est la meilleure façon de décrire nos problèmes. Et là, on fait tout du langage naturel, et c'est super. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de c'est aller chercher, notamment dans la façon dont on réfléchit. Là, j'ai l'idée de pouvoir faire des math-driven specs. Au lieu d'écrire du langage naturel, on écrit des maths. Je pousse l'idée un peu trop loin, peut-être, mais ça explore justement cette idée de... en fait, quand on réfléchit, par exemple, quand on fait des maths, si là, je vous dis, je décris une équation mathématique à l'oral, en fait, ça va être ultra comprendre, très dur de la comprendre. Là aussi, on se met tous les trois sur un board, on écrit l'équation, vous allez comprendre. Donc, il y a une sens de la représentation mathématique très intéressante pour décrire des problèmes, et notamment composer aussi des choses par-dessus. C'était l'exemple que je donne là, par exemple, la phrase que tu vois là. L'équation, en fait, tout le monde peut la lire, tout le monde qui a un background un peu mathématique base comprend une équation là ou une phrase. Il y a trop d'ambiguïté et c'est dur de composer avec. Et donc, j'ai testé un peu, j'ai fait un math skills, math driven skills qui permet de, tu donnes un prompt et il va te générer le question en mathématiques. Donc là, c'était exemple assez basique avec Tacto. Et en vrai, après, quand tu redonnes ça à un agent, il arrive à faire exactement ce que tu aurais pu faire en naturel. Mais l'enjeu, c'est pas forcément pour l'agent, c'est plutôt entre l'humain et l'agent, et comment tu gardes une structure cohérente de ton prompt. Il y avait un exemple, je pense que Julien, tu l'as dans un dernier podcast, où il y a un gars aux US, il a fait un prompt de 1000 lignes dans un markdown. En fait, ça, c'est un maintenable comme un code spaghetti. Donc, il y a un enjeu d'aller plus loin, selon moi, que le langage naturel pour composer son software de façon un peu plus smart, quoi. Un peu comme le TDD ou le DDD... en fait, moins plus senior, c'est un peu la même idée. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, je trouve ça trop intéressant parce qu'en fait, l'idée c'est d'avoir les specs, c'est un gros, c'est un dump de ton cerveau dans un fichier. Et en fait, après ce dump, l'objectif c'est conduire à la meilleure implémentation. Parce que tu as envie, c'est que de limiter l'incertitude qu'il y a entre ce dump et l'implémentation finale. Et donc, du coup, plus tu arrives à avoir spec où il y a le moins d'ambiguïté possible, et ben plus tu vas réussir à limiter le risque que l'implémentation de mal. Et donc du coup utiliser les maths pour ça, moi je trouve ça assez brillant parce que justement le but c'est de voilà, c'est d'avoir des specs dans lesquels tu es sûr que le logiciel qui va être généré, qui va être construit après, soit le plus proche possible de tes spécifications. Et du coup les maths pour ça. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé en lisant ton article, c'est la composabilité, parce que en effet en fait je pense que ce qui est trop intéressant, c'est par exemple de prendre un sous-système d'un autre système pour l'injecter dans ton système. Par exemple, je sais pas si t'aimes bien le workflow d'authentification d'une app X open source et que tu veux l'utiliser dans ton app, bah en fait, tu peux juste référencer les specs. Et puis, vu que c'est composable, et bah, tu peux aussi composer tes apps sans avoir à repartir de scratch.
Je pense que c'est un super point. Il y a un autre article qu'on va peut-être aller dans le détail aujourd'hui, mais qui parle de ça, de ce qu'il appelle, c'est Steve Yeager qui parle de ça, de l'inside compression. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle de développer de plus en plus de CLI, de skills, etc. Pour éviter à l'agent de recramer des tokens pour rien. Là, en fait, on a déjà un problème. Par exemple, il y a un exemple qu'il donne, c'est en fait, un agent, il va jamais recréer Git. Git, c'est 20 ans de travail d'humain et de faire super bien. Pourquoi un agent, il recréer Git alors que ça existe déjà pourquoi utiliser
ça revient un peu à ce que tu disais, Christophe, tout à l'heure, c'est chacun peut recréer mais comment positionner ton outil comme étant trop compliqué à recréer, comme étant une brique. Et je pense que c'est ça toute la clé maintenant. C'est vraiment d'avoir un outil qui est considéré par les développeurs, par les agents, comme étant quelque chose sur lequel ils puissent s'appuyer.
Ouais, mais par exemple, si on prend l'exemple de Git, on pourrait se dire dans un monde d'agents, est-ce que Git, ça sert encore à quelque chose? Enfin, en gros, par exemple, Git, c'était un bridge peut-être pour les humains, pour nous aider à collaborer. Est-ce que dans le monde d'agents, ça a un intérêt Git? Est-ce qu'il faut pas un truc qui est plus efficace? Et donc après, c'est peut-être un autre software versioning et peut-être qu'il y a quelqu'un qui créera cette brique et tout le monde va la réutiliser. Ça, c'est vrai. Mais
c'est un peu, je sais pas si vous connaissez, BID, c'est du Git pour les agents, quoi, en gros.
Ouais.
Donc, y a toute cette trend aussi de créer des outils pour les agents et pas pour les humains. Encore une fois, est-ce que c'est les humains qui doivent créer des outils pour les agents ou les agents qui doivent trouver des outils pour les agents?
C'est ça le biz. Enfin, je trouve que ce logiciel il est trop stylé. Mais un truc je pense, à retenir de comment le gars il a créé, c'est qu'en gros, si tu regardes son CLI, en fait, il y a un nombre incalculable d'options violentes. Et en fait, le gars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a protégé son client des hallucinations. Donc en gros, à chaque fois qu'il y avait une hallucination sur une commande, eh ben, il rajoutait une nouvelle option dans son client. Ce qui est un truc complètement contre-intuitif. D'habitude, ce que tu essaies d'avoir une client qui soit, voilà, qui puisse être compréhensible par un humain, bah, lui, il a fait tout l'inverse. Il a vraiment encoder toutes les hallucinations possibles dans son client pour que l'agent interagisse avec.
Il a reverse engineeré le training du LLM, quoi.
Ouais, exactement. Donc, par exemple, si l'agent il essaye pas bids LS, lui il a que bids list, mais il a rajouté une autre commande LS.
Ok, c'est marrant. Sur la partie spec, là, ça me fait penser à quand j'étais à YC, il y avait une ou deux boîtes, et je pense qu'il y en a encore maintenant, qui essayent de faire du formal, quoi. Enfin, ça, c'est un peu du formal, et c'est de la vérification formelle de comment tu définis de manière formelle les choses et comment tu t'assures qu'ensuite tes LLM sont un peu plus déterministes par rapport à tout ce que tu donnes comme spec formel, quoi. Mais c'est un truc qui est assez difficile et pour l'instant, j'avais pas vu de, enfin, j'ai rien vu qui marchait vraiment et ou d'outils, mais il y a des gens qui ont essayé et ça a pour l'instant pas l'air d'avoir fonctionné. Et sur ça, le seul truc auquel ça me fait penser, moi, c'est bon, est-ce que c'est imaginable de penser qu'on peut faire des specs mathématiques de tout ce qu'on fait dans la vraie vie, quoi? Enfin, je pense que là, ça se prête plutôt bien à quand on parlait des metrics tree ou des trucs comme ça, ou dans le cas d'usage d'entreprise. Mais est-ce qu'on est capable de faire du mathématique de plein de choses? Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu y réfléchis, l'anglais, c'est le truc le moins pire pour tout, en fait. Enfin, l'anglais ou la langue naturelle qu'on utilise, on a convergé à un truc qui nous permet de communiquer entre êtres humains et de se comprendre entre êtres humains. Et si les maths, c'était le truc le plus pratique, ben, on parlerait en langage mathématique potentiellement, quoi.
Je vois ce que tu veux dire. Après, tu vois, pour parler, c'est le langage naturel, parce que ça, on a l'évolution qui est en fait, utilise une voix et le langage naturel. Et pour réfléchir, c'est pas forcément le meilleur canal, tu
C'est un bon point.
vois.
Et pour réfléchir, personne ne sait répondre à ce truc-là. Enfin, personne sait comment on réfléchit.
Et chacun a son mental model aussi. Mais les maths sont un peu le point où on se rejoint tous. Humain dans la construction de systèmes complexes avec une même truc de point. Mais effectivement, c'est un peu la question que je pose dans l'article, c'est est-ce qu'on arriverait à trouver les équations de Maxwell du produit? Ça part un peu trop loin. Mais que, par exemple, entre Airbnb, Booking, en fait, il n'y a pas un socle commun qui est définition d'utilisateur, des freins de demande, de calendrier, qu'on n'arrive pas à trouver une équation au sens large, solve tout le problème. Un peu comme on a des librairies de software, bah, en fait, on pourrait avoir une librairie commune de choses un peu plus abstraites qu'on manipule ou entre eux.
Au final, c'est des graphes, non? Tu peux te ramener à une structure de graphes dans
Ouais,
ton socle pour le décrire.
je suis assez d'accord aux histoires de dépendance entre entités et action entre entités qui peut assez facilement représenter.
Puis, je pense, pour revenir sur ton point, Christophe, la physique, je pense que c'est un bon exemple. Science qui essaye de décrire le réel et qui utilise quoi? Qui utilise les maths pour le faire. Les exemples mathématiques pour le faire.
Ah, ça.
Et après, je mets dans l'article aussi, c'est que on aura toujours le langage naturel parce que c'est notre interface à nous en tant qu'humain. Et par contre, les agents, eux, peut-être que ça, enfin, les maths seraient un peu le substrat, là où le langage naturel ou le code, c'est projection de ça, là, pour les différents acteurs qui en channel en particulier.
Ouais. Sur la partie prompt, nous dans Nao là récemment sur la manière de prompter, on a, enfin, c'est, il y a plein de libs je pense pour qui t'aident à construire des prompts, mais nous on a fait un truc assez simple où en gros on écrit du React et le React ensuite est converti en Markdown. Enfin, on a fait une lib où en gros t'écris des blocs en JSX comme si c'était du React. Du coup, t'es capable de créer tes prompts en JavaScript et donc t'as une composabilité de prompt, tu peux boucler, tu peux faire whatever, quoi. Enfin, t'as tout le templating du React pour créer tes prompts. Et ensuite, on a un truc qui fait React to Markdown. Et ensuite, ça compose le prompt final en Markdown qui est envoyé, quoi.
Ah, c'est trop bien, bah, c'était un peu mon idée. Je me suis fait un outil comme ça parce que
Avec
j'en avais marre
Grimoire, ouais.
Avec Grimoire pour gérer mes prompts. Je suis pas allé aussi loin que vous. Moi, c'était juste un slash CLI qui permet de. J'ai tous mes prompts, mes skills en fait. Et des fois, j'ai envie de les composer pour faire des agents.md un peu complexes. Là, dans mon terminal, j'ai juste à, en fait, prendre moi tel prompt, tel prompt, tel prompt et faire un append, mêlez-moi bout à bout. Et après, je peux toujours repasser la moulinette dans un Opus 4.6 pour le clean avec plus de contexte business. Mais je pense que vous avez fait, c'est plus smart. Ça revient sur l'enjeu de composabilité de, t'as des
Ouais.
mini-prompts très focus et après, toi, tu veux choisir et ah, c'est smart.
Juste pour comprendre, c'est quoi l'intérêt de composer des prompts? C'est quoi, par exemple, le cas d'usage?
Bah, c'est, par exemple, moi, tu vois, pour faire en ce moment, pour faire mes projets perso, ce que je fais, c'est que, moi, j'aime bien faire du TDD, donc faire vraiment faire du red-green. Tu lances les tests, ils sont rouges, et après tu fais le code. Et en fait, ça, c'est une petite partie de mon agent.md. Et si je veux faire un front en React, bah, j'ai un autre skill qui est senior front-end skills. Et derrière, en fait, je veux mettre les deux bout à bout, comme ça, si je veux faire un nouveau.
Et nous, ce qu'on a, c'est genre, notre système prompt, du coup, il est défini en React, comme ça. Donc, on a encodé, genre, comment tu fais du Markdown vitaf en React. Et l'avantage, du coup, c'est que tu peux, bah, là, quand on créer notre système prompt. Si on sait que le user a des connexions, bah du coup on peut boucler avec toute la puissance du React pour dire bah dans le prompt qu'est-ce qu'on va rajouter qui est de type connexion quoi. Et ensuite tout ce truc là qui est du TSX ou du JSX, bah c'est converti en Markdown et c'est ce qui est vraiment envoyé à la fin au LLM. Et donc en fait on repose sur la création de prompt de manière software quoi.
Ok, je comprends. Bien.
Non bah après l'autre donc là j'avais fait un maths spec driven skill qui permet de jouer un peu avec ces idées là. L'autre chose que j'ai faite qui est un peu plus utile au quotidien c'est ce que j'appelle spec observer. J'ai vu d'autres gens faire ça aussi. Ça permet de quand t'as un gros markdown avec un spec, ça permet de le visualiser un peu plus de façon un peu plus pratique. Ça tu peux faire des collapses, faire des tables, ça fait les renders des merdes.
Ah ok.
C'est un markdown viewer quoi en gros.
Mais c'est une petite UI. En gros c'est une petite UI que tu lances en bon, browser.
Ouais, c'est même en skills, en fait, tu le donnes à ton cloud dans le navigateur ou whatever, et derrière, il va te faire le render à la volée.
Ok.
Je pense que tout va se faire comme ça. La BI, ça va se faire comme ça aussi.
Oui. Tu veux dire avec des apps embed dans les trucs de chat?
Ouais, bon, surtout la persistance, c'est-à-dire que ton dashboard, tu peux le persister en markdown et après le régénérer à la volée avec des nouvelles data et puis en HTML. Mais la persistance, ouais. Tu le fais avec des fichiers markdown. Ça suffit largement. Puis après, il faut juste avoir des évidence. Ça,
c'est évident.
Ouais, je pense que ça va se généraliser. C'est un peu le pattern maintenant.
Je viens de sortir ça sur Nao cette semaine. En gros, ça fait genre create a story about Napoleon and add random char in it. Et en gros, ça va tourner un peu, mais l'idée c'est de créer des stories qui sont des markdowns que ensuite tu peux partager avec tout le monde, quoi.
Mm-hmm.
Bon, là, il va sortir. Bon, je vais peut-être le couper au montage parce qu'il va sortir des données de prod. Là, il va me sortir le MRR de Nao. Mais... et en gros, en fait, ça te permet de créer une story comme ça. Bon, là, j'aurais pu du coup lui demander direct une story de MRR, mais et à la fin, il est capable de mettre des charts à l'intérieur. Bon, ça, je le couperai, je pense.
Ça ressemble à un truc de. Ça ressemble au truc de Mother Duck.
Ah oui, les dives.
Les dives.
Voilà. Et en gros, l'idée, c'est qu'après ça, tu peux genre l'ouvrir en full screen et le partager à quelqu'un comme une histoire, quoi.
Et le rafraîchir, l'avoir rafraîchi tous les jours.
Ouais. Pour l'instant, nous, il est pas rafraîchi, c'est embed la data à l'intérieur. Mais ouais, l'idée, c'est que tu puisses le rafraîchir.
Ça rejoint un peu le sujet de graphie de, c'est quoi, c'est graphie.dev, c'est ça qui permet de faire des.
Ouais.
Je peux pas explorer encore à 100%, mais qui permet de faire des charts de façon un peu plus déterministe, tout en ayant un LLM derrière en back.
Alors, de mon point de vue, de ce que je comprends, c'est que graphie, pour moi, c'est un truc qui existe depuis des années, qui permet de faire, c'est une librairie graphique pour faire des charts, quoi. Et je pense qu'ils ont adapté leur librairie pour qu'elle soit AI native, parce que ça, c'est le truc que j'ai un peu creusé là aujourd'hui. De mon point de vue, il n'y a pas de bonnes librairies qui sont LLM compatibles. Et quand je dis LLM compatible, c'est faire un truc qui... En fait, quand tu fais des charts, il y a plein de choses qui sont importantes, quoi. Il y a la manière dont tu fais les axes, les grilles. Il y a tellement de choses, genre le formatting des dates que tu puisses facilement le changer, parce qu'en fait, c'est toujours chiant le formatting des dates quand tu fais des charts. Si tu mets des filtres, comment tu connectes le filtre à ton chart, comment ça se rend dynamique, comment tu crées tout ce système-là. Et de ce que j'ai creusé, je trouve qu'il n'y a pas de bonne lib open source ou de bonne lib tout court qui permet de faire ça. Je pense que Evidence le fait dans son propre framing, je dirais. Evidence va le faire, Lightdash va le faire dans son propre framing. Mais si tu veux utiliser ça dans ta propre app, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a absolument rien qui existe. Et je pense que c'est un peu ce que veut faire Graphi, c'est fournir tous les... C'est ça, charting SDK, pour qu'en fait, les LLM puissent faire des vises et que tout soit bien connecté entre.
Mais Plotly et tout, ça ne permet pas de faire ça.
Le problème de Plotly, le problème de Plotly, c'est que c'est du Python. Et après, ça se build en app live, mais que c'est du Python. Et je trouve que mon feeling, c'est que le code de Plotly, c'est pas le meilleur code, quoi. Mais peut-être que je dis des conneries.
Ouais, ça se rapproche pas plus, des 3.js en version justement un peu plus SDKifiée. Un peu plus haut niveau que des 3JS, peut-être, c'est un entre deux.
Ouais. Et puis les charts de Plotly, c'est pas les plus beaux, mais je pense que tu peux peut-être le surcharger.
Ok.
Vas-y.
Quand j'ai vu le truc passer, puis je me demandais, mais ça veut dire quoi exactement être AI native? Comment est-ce qu'ils comprennent ça?
Je pense qu'il y a, je sais pas, c'est un truc que c'est un feeling pour l'instant que j'ai pas encore matérialisé. Il faudrait que j'écrive dessus et je pense que je couperai ça au montage parce que là, j'avoue. Mais c'est pour l'instant, quand j'utilise des libs, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc qui manque pour que le LLM, il soit parfaitement fluide avec, tu vois. Ce que t'as envie, potentiellement, quand tu fais un chart, c'est, si le chart, tu le sors dans l'autre sens, t'as pas envie de régénérer un chart. tu as envie que le chart il s'update dynamiquement, tu vois. J'ai envie que mon LLM il soit capable de cacher, afficher des choses comme ça. Enfin, il y a plein d'interactions sur un chart que tu as envie de. Enfin, tu as envie que le LLM il soit genre, tu as l'impression qu'il contrôle le chart complètement et pas qu'il ait besoin de repasser la data à l'intérieur, parce qu'en fait, la data c'est plutôt un pointeur qui est caché à un autre endroit. Tu vois, il y a plein de trucs où.
C'est un peu il faut voir ton chart comme un. Pas un sémantique layer, mais comme un. L'endroit, enfin le point d'entrée du LLM, après le LLM peut changer le chart, mais sans changer la sémantique derrière.
Ouais, exactement. Pas le même sujet sur les diagrammes. Essayer de faire des diagrammes, par exemple avec Escalidro, bah en fait, si un LLM veut le faire, il doit passer par l'inter complètement inefficient.
Ouais.
En fait, il y a plein de choses graphiques comme ça où probablement il y a un point d'entrée à créer.
Sur les diagrammes, j'ai l'impression que le truc sur lequel ça va converger, c'est de faire du mermaid, parce que l'avantage du mermaid, c'est que c'est genre texte serializable, quoi. Mais je pense qu'il y a plein de défauts le mermaid parce que c'est assez simple.
Tu vas pas très loin. Enfin, ce que j'en connais, tu vas pas très loin. Enfin, en gros, il faudrait un Excalidro avec.
Ouais. Trop stylé. Ensuite, t'avais envoyé ça, Benoît.
Non, je crois que c'est moi. J'ai trouvé là-dessus hier. Et puis, en fait, je construis une ou deux interfaces là en ce moment. Et en fait, à chaque fois, il y a l'air pour donner du feedback. Et puis, ça te permet de le faire. Je te clique sur les différents composants de front. Tu rajoutes des commentaires. À la fin, tu fais un copier en bas là, à droite. Et après, tu copies ça à Cloud Code et t'as tout le feedback déjà qui est retourné. Et je trouvais ça. Ça, pour moi, c'est l'exemple parfait d'une application simple et assez smart.
Est-ce que c'est comme si tu décrivais, comme si tu décrivais à la voix, tu dis ok, j'ai un problème dans ma navbar, j'ai un problème machin, tu récupères le transcript et après tu donnes.
Exactement.
Ok,
exactement.
Trop bien.
Il y a la même chose dans Cursor depuis genre quelques mois. Genre, Claire, mon associée, elle utilise ça pour bosser sur le website et la landing page, quoi. Elle a genre le chat sur le côté, le website juste en mode browser, et dès qu'elle a envie de faire des trucs, elle plante un bloc, elle le drag and drop dans la chat. Dans la chatbox, et elle dit je veux pas que ce soit comme ça, quoi.
Trop bien. Ah, je savais pas.
Il y a Stitch de Google aussi qui s'assure pas bien son design.
Je pense ensuite il y a cet article là, Benoît. Pas Benoît, Julien.
Ouais, ça c'est moi, l'article de la semaine, j'ai trouvé incroyable. Donc en gros, c'est un gars qui a appris, je crois qu'il est licencié, puis du coup il s'est lancé un peu dans des projets fun, et en gros, il a appris son chien à coder un jeu. Alors, comment il a fait en fait, il a. Vas-y, tu peux baisser un peu. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que il a donné un keyboard à son chien. Donc, appuie de manière random sur le keyboard. Il a fait un système de reward, lui donner à manger quand il appuie. Et donc, en gros, il a appris son chien déjà à appuyer le keyboard. Et en fait, ce qui s'est passé après, il a donné l'output du keyboard. Il l'a envoyé à Cloud Code. En fait, il a dit à Cloud Code, ceci est un message cryptographique. Décris-le, et crée un jeu à partir de ça. Essaye de comprendre ce qu'il y a dans le message, et tu crées un jeu à partir de ça. Quand t'as besoin de plus. Et en fait, il a une boucle de feedback où ça allume une lumière ou un truc sur la nourriture du chien. Et donc, du coup, quand Cloud Code a besoin de plus d'input, bah le chien il va rappuyer sur le keyboard, et puis il va avoir un système de reward. Donc en gros, il a fait une boucle entre Cloud Code et ce que le chien rentrait sur le clavier, et ça a marché. Il a sorti des jeux comme ça. Et en fait, tu peux regarder plus bas, c'est assez marrant. Tu vois comment est-ce que Cloud Code interprète le message, en fait, où c'est random. Voilà, c'est ça. Je sais plus où c'est. Tu peux t'arriver à trouver. Et voilà, ça, je trouvais ça, c'était un projet. Je trouve trop marrant.
C'est
trop fort.
C'est là, non? Ah oui, c'est là.
C'est ça, exactement. Regarde, tu vois, genre Y7U key or adjacent on keyboard, comme ça. Moi, je trouve ça brillant.
Trop, trop bien. Il dit dans l'article si ça converge vers quelque chose à la fin, genre si à la fin il y a un state qui reste. Le chien, il a optimisé pour avoir la récompense, genre il tape sur les touches en haut à gauche du clavier pour avoir tel de.
Ah, ça,
je vais lire en détail.
Mais du coup, dans le setup, le chien, il a pas un écran de ce qui s'affiche, quoi.
Non, il a juste le pet footer là, c'est ouais. Ça sa boucle.
Et donc plus de coup, ouais. Voilà. C'est donc cool. Là, c'est quand même là, c'est pas bah, c'est cool, je pense, c'est fun, mais il y a un truc qui est le jeu, c'est plus Cloud Code qui s'amuse plus que autre chose, quoi. Là pour l'instant.
Ah oui, bien sûr. Oui, là, oui, exactement.
Trop stylé.
Comment dresser son chien avec Cloud Code?
Oui, pour le gars, je pense qu'il prend pas mal de temps, parce que mine de rien, comme de quelques briques à mettre. Mais ouais, bien rigolé.
Trop stylé. Ensuite, il y a les starts.
Ça, c'est moi, j'ai pas mal tourné sur Substack. C'est un peu déprimant. Je vais pas être déprimé, ne lisez pas cet article-là. Mais ça explique comment en 2028, potentiellement, c'est une histoire fictive de 2028 qui revient dans le passé. C'est depuis 2028. On a une grosse crise économique, en gros. Mais c'est ultra détaillé, c'est assez, assez réaliste. C'est un peu long à lire, mais c'est ultra intéressant. Il y a pas mal de. Il y a sans doute du vrai, il y aura sans doute du faux. Pareil, c'est ce genre de post-là.
Il a dit quoi? Enfin, c'est qu'est-ce qui se passe?
Bah, en gros, il dit que tous les white collar, donc tous les ingénieurs qui travaillent dans le tertiaire, n'ont plus de travail et que du coup, ces personnes-là, consommées dans le réel, tous les gens qui sont dans le secondaire et le primaire n'ont plus d'argent non plus. Tu arrives dans une crise majeure de. Voilà, très, très, très
Ah,
simple.
mais c'est ce
Ouais.
qui ça revient un peu au premier tweet de Twitter là.
Ouais.
Ouais, c'est un peu ça.
T'as 1% des gens qui captent 80% de la valeur et de la propriété, et le reste, bas, quoi.
Ouais,
C'est
c'est un
un peu
peu
risque.
le something big is happening, c'est un peu ça aussi,
C'est
quoi.
ça, c'est la suite un peu plus détaillée, technique, économique de ça. Après, souvent, l'économie, là, c'est vachement trendy, il y a beaucoup de lobbying aussi derrière des boîtes d'IA. Je suis pas sûr que l'économie, ça marche vraiment comme ça, il y a quand même plus d'inertie. En 2028, ça me paraît tôt pour avoir ce genre de.
Ouais. Hier j'ai vu un reportage, je sais plus, sur YouTube, que alors c'est je sors là, sur la partie économique, c'est en ce moment il y a une crise du vin de Bordeaux, et parce que le vin de Bordeaux, à cause des tarifs, à cause de juste la consommation, les gens consomment vachement moins de vin de rouge de Bordeaux, que ce soit en France ou même dans le monde. Et ce qui se passe, c'est qu'en France, du coup, ils donnent des primes aux vignobles pour détruire leurs vignes. Enfin, en gros, c'est genre, ils déplantent les vignes. Et en fait, si un viticulteur choisit de arrêter de faire du vin de Bordeaux, il donne des primes plus élevées si tu arrêtes complètement ta production de vin de Bordeaux et que tu enlèves toutes tes vignes de ton champ, quoi. Et c'est l'État qui donne des primes là-dessus. Enfin, le parallèle, c'est un peu genre, est-ce que c'est ce qui va se passer après quand, genre, bah, des métiers seront plus utiles, comment on va faire, enfin, des métiers, des choses qu'on produit, seront plus utiles, quoi. Comment, quelle est la transition? Là, c'est sur le vin, mais.
Tout le monde est subventionné par l'État à un moment, et comme
Ouais,
beaucoup
mais au bout d'un
de
moment, l'État, il pourra
choses.
plus subventionner tout le monde, quoi.
Ouais, c'est le.
Je suis pas si pessimiste que ça, moi. Je pense que ça va juste augmenter le niveau de tout. Au final, on va avoir la même situation qu'aujourd'hui, mais tout le monde va faire, genre avoir 10 fois plus. Du coup, les attentes vont augmenter. C'est juste une barre qui va s'élever.
Ouais, je suis d'accord.
Ouais.
La première phase sera comme ça, et celle-là, elle va durer quand même longtemps, je pense.
Après, le vrai truc, c'est que potentiellement, sur le software, on avait trop de software engineers sur Terre, quoi. C'est peut-être ça, en fait, le vrai sujet, c'est que le point d'équilibre était beaucoup trop élevé, on avait beaucoup trop de personnes travaillées dans le software engineering, et peut-être juste, on n'avait pas encore trouvé le vrai point d'équilibre.
Moi, non, je pense que c'est le contraire. Il n'y en avait pas assez. Que du coup, on n'arrivait pas à créer des softwares qui étaient assez. Que du coup, maintenant, on va pouvoir faire des softwares qui sont 10 fois meilleurs, combler 10 fois plus de niches. Et donc, du coup, il y aura 10 fois plus de demandes encore.
Ouais, un peu comme les médecins, quoi. C'est dur, on a un problème de. Il n'y a pas assez de médecins parce que c'est dur d'avoir des médecins parce que qui est des taux. Là, on l'a killé, quoi, faire, il semble d'être.
Ouais, mais en fait, oui et non. Dans le sens où c'est simple, c'est beaucoup plus simple d'être software développeur avec un niveau 2025.
Oui.
Mais être un software développeur niveau 2026, bah, ça demande toujours autant d'efforts. C'est juste que l'output d'un software développeur, il est 10 fois meilleur. Donc, en
Oui.
gros, tu as toujours besoin d'autant d'efforts pour être au niveau du marché, je pense. Et c'est juste que tous les softs qu'on fait, bah, ils sont beaucoup plus ambitieux, plus compliqués, ils sont beaucoup plus avancés.
Ouais, j'aime bien, et ça va dans le sens d'avoir plus de toujours avoir des seniors qui ont besoin de faire des c'est encore plus. Enfin, ça change pas, c'est juste comme tu dis, c'est tout le rang vers le haut, quoi.
Exactement. Moi, c'est un peu mon intuition.
Autre truc qui est, c'est un papier qui est sorti, bon, 12 février, qui évaluait l'utilité du agent.md ou du cloud.md, enfin, en fait, toutes les grosses instructions. Et donc, ils ont pris, de mémoire, ils ont pris des repos open source et ils ont essayé de voir s'ils arrivaient à résoudre des issues avec ou sans le fichier.md. Et alors, bon, il y a plein de graphiques là-dedans, mais donc, j'ai demandé à ChatGPT de me résumer la conclusion de ce papier. Et la short answer, c'est quand il y a des agents de .md, ça make coding engine worse, not better. Et une des raisons principales, c'est souvent que, en fait, on met trop de trucs dans le agent .md. Enfin, l'explication principale, c'est qu'on écrit trop de trucs qui servent à rien. Et du coup, bah, on fait du context rot. Enfin, genre, c'est le truc classique, c'est genre, on met du noise et on pollue le contexte parce qu'on écrit des trucs qui servent à rien. Par exemple, tu vas répéter dans le agent.md un truc que le LLM sait déjà, genre de comment coder, ce genre de choses, où tu vas écrire des phrases qui vont un peu plus le perdre, qui vont pas avoir d'intérêt, tu vas lui parler de ton projet, donc tu vas lui décrire ce qu'il y a dans ta codebase, tu vas lui mettre des trucs plus bas. Sauf qu'en fait, ça, il sait normalement déjà le faire parce qu'il sait search dans la codebase ou grep dans la codebase. Donc, il y a plein de trucs qui servent à rien là-dedans. Donc, c'est... Voilà, de toute façon.
Je trouve que ça résonne complètement avec l'article. Enfin, quand j'ai écrit l'article, j'ai failli annuler. Quand le papier est sorti, j'ai
Hey.
failli annuler d'écrire l'article. Je disais, ben, en fait, rien de faire des specs. Et quand même, à la fin, enfin, dans la recommandation, c'est quand même quand l'humain écrit le contexte, ça a quand même un edge, un petit edge, qui est peut-être pas aussi important que je voudrais. Mais
Ouais.
ça revient encore, comme disais, ça sert à rien de mettre plein de contexte, faut juste savoir le contexte. Tu vois, ça.
En fait, ce qui est trop dur à savoir, c'est de connaître le delta, ce qu'il
Ouais.
faut rajouter au LLM. Après, ça va pouvoir se régler avec des systèmes d'itération, etc., avec ou sans agent.md. Mais je trouve que c'est trop dur de savoir. Surtout que les modèles évoluent. Donc, en fait, le delta que tu dois rajouter.
Et ben, on va devoir s'arrêter là. Enfin, c'est bon pour cette semaine. Merci les gars. C'était une très cool discussion encore une fois. Alors, on se revoit la semaine prochaine.
Parfait, trop bien. Merci à vous deux. C'est super
Merci à
intéressant.
vous. Ouais, super.
Salut, bon week-end.
Salut.